Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. La République tchèque conteste la condamnation de l'ex-première ministre ukrainienne Yulia Tymoshenko par le tribunal de Kiev. L'Union européenne a donné son aval à l'exception tchèque concernant le traité de Lisbonne. Les autorités tchèques lancent le nouveau système d'information sur les visas. La République tchèque s'oppose à la peine infligée ce mardi par le tribunal de Kiev à Yulia Tymoshenko. L'ex-premier ministre ukrainien a été condamné à 7 ans de prison et à 150 millions d'euros d'amende. Les enquêteurs accusent le chef de l'opposition ukrainienne d'avoir outrepassé ses fonctions en janvier 2009 en signant des accords gaziers avec la Russie jugés très défavorables aux intérêts nationaux. C'est très grave, nous avons sévèrement condamné ce jugement, a déclaré Karel Schwarzenberg, le chef de la diplomatie tchèque à Luxembourg, à l'issue d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Selon Karel Schwarzenberg, la condamnation de Tymoshenko risque d'envenimer les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine. Dans un communiqué, la diplomatie tchèque indique que l'Ukraine s'éloigne des standards européens. L'ancien président tchèque Václav Havel espère, selon son porte-parole, que les tribunaux d'instances supérieures se pencheront sur une éventuelle motivation politique de ce jugement. À Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont également donné le feu vert à la ratification de l'exception tchèque concernant la liste des droits fondamentaux ancrés dans le traité de Lisbonne. L'exception avait été promise par l'Union européenne au président Václav Klaus en 2009, avant la signature du traité de Lisbonne. Cette mesure doit protéger les Tchèques contre d'éventuelles exigences des Allemands des Sudètes concernant la restitution de leurs biens confisqués sur le territoire tchèque. Selon certains juristes, cette exception est cependant inutile étant donné que les Allemands des Sudètes n'envisagent pas de demander ces restitutions. L'exception devrait être ratifiée par l'Union européenne parallèlement avec l'adoption du traité d'adhésion de la Croatie. La République tchèque a lancé ce mardi le nouveau système d'information sur les visas. Il vise à simplifier les procédures de visa dans l'espace Schengen, à faciliter et promouvoir l'immigration légale en protégeant les demandeurs de visa du risque d'usurpation de leur identité. Dans un premier temps, le système sera mis en œuvre dans les consulats tchèques en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Égypte, où les demandeurs de visa devront donner leurs empreintes digitales et une photographie numérique. Une fois pleinement opérationnel, le système sera connecté à tous les consulats émetteurs de visa des États Schengen et à tous les points de passage des frontières extérieures de l'espace Schengen. Le président de la République, Václav Klaus, s'est entretenu ce mardi avec les représentants de la conférence épiscopale tchèque, comme convenu au cours de cette rencontre. Dans les prochains jours, le chef de l'État invitera le pape Benoît XVI en République tchèque aux célébrations du 1150e anniversaire de l'arrivée des évangélisateurs slaves Cyril et Méthode en Moravie, célébration qui auront lieu en 2013. Václav Klaus s'est également félicité de l'approbation fin septembre par le gouvernement tchèque d'un projet de loi sur les restitutions des biens des églises. À son tour, l'archevêque de Prague, Dominik Duka, a remercié le président Klaus de son discours prononcé lors d'une messe à Stara Boleslav à l'occasion de la fête nationale du 28 septembre, où le chef de l'État a prôné les valeurs traditionnelles en critiquant le modernisme opportuniste. Ce discours a tout de même suscité des réactions mitigées. Il a été critiqué, entre autres, par le théologien et sociologue Tomáš Halík, une des figures les plus en vue de l'Église catholique en République tchèque. Un mot du sport, l'équipe de République tchèque de football dominée vendredi dernier à Prague par l'Espagne 0-2 à l'occasion de son avant-dernier match éliminatoire pour l'Euro 2012 affronte ce mardi soir la Lituanie à Riga pour un match décisif pour la deuxième place finale synonyme de barrage. Côté météo, c'est un temps couvert et pluvieux qui continuera à régner sur le territoire tchèque mercredi, jour de la fête des Marcel. Les températures seront en baisse et oscilleront entre 10 et 14 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Magdalena pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Une actualité au sommaire de laquelle figure tout d'abord l'épopée slave, cycle de toiles géantes d'Alphonse Mucha qui pourrait être installée à la gare centrale de Prague. Plus de précisions sur ce dernier rebondissement dans ce dossier qui suscite les passions depuis plusieurs années dans quelques instants. Il y aura de la culture ensuite avec la remise des prix du prestigieux Tchèque Presse Photo, un concours qui chaque année présente les meilleures photos de journalisme réalisées en République tchèque et en Slovaquie. Et puis la seconde partie de ce programme sera consacrée à la conférence Forum 2000 qui se tient ces jours-ci à Prague. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Le débat public sur les projets d'installation de l'épopée slave, un cycle de toiles géantes signé Alphonse Mucha, se poursuit depuis des années et suscite les passions, des conflits et aussi l'attention de la presse audiovisuelle et écrite. Tout récemment, le débat a connu un nouveau rebondissement avec une étude réalisée par des spécialistes pour le maire de Prague, Borislav Svoboda, étude selon laquelle la collection des tableaux d'Alphonse Mucha pourrait être exposée dans la gare principale de Prague. Plus de précisions sur le sujet avec Václav Richter.
En créant l'épopée slave, Alphonse Mucha voulait évoquer les plus grands moments de l'histoire des peuples slaves et faire don au peuple tchèque de cette vision monumentale à laquelle il a sacrifié une grande partie de sa vie. C'est pourquoi il a légué toute la collection à la ville de Prague en souhaitant que la capitale se charge de l'exposition de ses tableaux. Il semble cependant que la recherche d'un espace pour l'installation de ces toiles monumentales soit une tâche extrêmement difficile, sinon impossible. Toute une série de projets dans ce sens se sont heurtés au manque de moyens financiers et aux objections des héritiers du peintre et d'historiens de l'art. Milan Bufka, directeur de la galerie de la ville de Prague, présente trois des projets les plus récents.
Un de ces projets situe l'épopée dans le parc de l'Etna, devant le musée de l'agriculture, et un autre projet sur la colline de Vitkov. Ce sont des projets de construction de nouveaux pavillons qui nécessiteraient des investissements considérables. Par contre, l'installation de l'épopée dans le manège de Pochelets, près du château de Prague, serait moins coûteuse et sa réalisation ne nécessiterait même pas de changement dans le plan cadastral de la ville.
Ce lundi cependant, la municipalité de Prague a présenté encore un autre projet qui compte avec l'installation des tableaux dans les locaux de la gare principale, grand édifice Art Nouveau, bâti au début du XXe siècle par l'architecte Joseph Fanta et admiré entre autres par Le Corbusier. Actuellement, la société italienne Grandi Stazioni procède à la restauration complète de la gare. Elle se demande comment exploiter la partie historique de la gare et l'idée d'installer une galerie de tableaux dans l'édifice de Joseph Fanta lui semble excellente. L'idée semble plaire également à John Mucha, héritier du peintre. Par contre, le directeur de la galerie de Prague, Milan Bufka, se montre beaucoup plus réservé et souligne que le flux incessant de passagers de la gare et la circulation automobile très intense à cet endroit pourraient nuire au tableau. Quant à la direction du château de Moravski Krumlov, où se trouve encore la majeure partie de la collection, elle s'oppose à tout projet de transfert des tableaux d'Alphonse Mucha à Prague. Pendant des décennies, les tableaux ont été exposés dans les salles du château, qui ne sont pas équipées pour abriter des œuvres d'une telle valeur. Milan Bufka estime donc que l'ensemble ne doit pas y rester.
Nous ne recommanderons pas le retour de l'épopée slave au château de Moravski Krumlov, parce que, comme on le sait, le château est un monument historique délabré. Ce n'est pas, à notre avis, un endroit convenable pour exposer la vingtaine d'étoiles de l'épopée. Néanmoins, ce sera la municipalité de Prague qui aura le dernier mot dans cette affaire. Nous ne sommes que les gérants de ces tableaux.
Toujours est-il que l'architecture Art Nouveau de la gare se marierait très bien avec le style des tableaux d'Alphonse Mucha. La société Grandi Stazioni se déclare prête d'ores et déjà à adapter les projets de restauration afin qu'une partie de la gare se transforme en galerie d'art. Les Parisiens et tous les visiteurs du musée d'Orsay, une gare transformée en galerie d'art, savent que c'est tout à fait possible.
On passe à la culture et plus précisément à la photo. Ce lundi s'est déroulée à la mairie de Prague la remise des prix du prestigieux concours Tchèque Presse Photo. La photographie victorieuse de cette année évoque les tensions ethniques dans la région de Varnsdorf, en Bohême du Nord. Jean-Sébastien Létang a assisté à la cérémonie de remise des prix.
Bien que le photojournalisme, en République tchèque comme ailleurs, soit dans une situation très éloignée de ses heures de gloire d'antan, certaines initiatives permettent toujours à ce média de survivre. C'est notamment le cas de Czech Press Photo, un important concours annuel permettant aux reporters de presse professionnels vivant en République tchèque et en Slovaquie de se faire connaître. Depuis 1995, Czech Press Photo souhaite stimuler le journalisme photographique tchécoslovaque en récompensant et en exposant toute image rendant compte des événements importants de l'année avec une approche personnelle et originale. Le prix annuel, dit Křištálové oko, en français l'œil en cristal, a été décerné à Stanislav Krupáš pour sa photo intitulée « Depuis les émeutes de Bohême du Nord, Varnsdorf, 10 septembre 2011 », qui, en montrant un homme esselé au milieu des heurts, retranscrit avec brio la violence des événements. Celui-ci s'exprime.
La photo a été prise pendant le meeting du Parti ouvrier de la justice sociale. La foule présente, qui était composée d'autochtones et d'un nombre assez important de néo-nazis, ensuite défilé dans la ville avant d'être arrêtée dans sa marche par un cordon policier à la rivière, à proximité du billet où loge des Roms. La foule a alors tenté de forcer le passage. Les affrontements ont été provoqués par le noyau dur des néo-nazis auxquels se sont joints quelques autochtones. La police n'avait alors logiquement pas d'autre solution que d'avoir recours à la force.
Le cliché a également été commenté d'une façon plus globale par la présidente du jury international, Daniela Mrázková.
C'est une photo de presse à la forte portée symbolique. Tout le monde sait ce qui se passe dans le nord du pays, mais sur cette photo, on ne voit ni ceux que l'on appelle les inadaptables, ni les néo-nazis. Il y a un homme qui se protège, recroquevillé sur lui-même. Autour, il y a de la fumée et c'est la confusion. Cette photo symbolise quelqu'un qui est très touché par ce qui se passe. Elle attire l'attention sur un problème social grave, très actuel, et pas seulement en République tchèque.
Ce cliché a également remporté la première place de la catégorie actualité. Le podium de celle-ci étant complété par deux autres photos dont la force d'évocation laisse sans voix. Le second prix, remporté par Jan Zatorski, nous montrant un révolutionnaire égyptien blessé hurlant de désespoir face à l'objectif. Et le troisième prix, remporté par David Neff, une femme en pleurs après la fusillade de juillet dernier en Norvège. On peut tout aussi bien citer le cliché nominé dans la catégorie reportage qui représente les dégâts causés par les coulées de boue rouge en Hongrie il y a un an. À noter également l'émouvante photo, premier prix de la catégorie « Les gens dont on parle », où l'on voit l'ex-président Václav Havel lors de la première de son film « Otra Zeni » sur le départ. Mais au-delà des images, la rencontre a également été l'occasion de discuter de l'avenir du photojournalisme dans un monde où, via Internet et la télévision, les images se font omniprésentes, au détriment souvent du message qu'elles peuvent porter. À ce sujet, le journaliste hongrois Peter Kornis s'exprime.
Je sais que la situation des photographes de presse n'est pas facile, et si je pense au nombre de photos qui nous sont parvenues cette année, je vois qu'il y en a moins que l'an dernier. Nous en savons tous la raison. Ce n'est pas qu'en République tchèque la situation des photojournalistes est partout difficile, mais j'aimerais dire que surtout les jeunes reporters photos devraient utiliser une opportunité aussi bonne que Czech Press Photo.
Espérons seulement que l'an prochain, le nombre de concurrents ne soit pas encore revu à la baisse. En attendant, vous pouvez retrouver tous les clichés nominés sur le site officiel de la compétition, www.checkpressphoto.cz.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite de programmes consacrés comme chaque mardi à la rubrique Panorama. Alors, état de droit et démocratie Ce sont les thèmes de la 15e édition du Forum 2000, un cycle de conférences organisé chaque année à l'automne à l'initiative de l'ancien président tchèque Václav Havel. Le Forum 2000 réunit chaque année nombre de personnalités politiques et intellectuelles du monde entier. Au micro d'Anne-Claire Veluire, nous écoutons l'ancien président du Ghana, John Kofi Aguiekoum Kufuor, et le philosophe et essayiste français André Glucksmann.
Panorama.
Panorama.
Un peu plus de 500 personnalités se sont déjà exprimées dans le cadre des conférences du Forum 2000 depuis sa création. Parmi les invités importants de cette édition était présent John Kufuor, ancien président du Ghana de 2001 à 2009, dont l'action est reconnue pour avoir contribué à faire de son pays un des pays les plus stables politiquement et économiquement du continent africain. Profitant de sa présence en République tchèque, nous l'avons interrogé sur son hôte, Václav Havel, et sur l'image de l'ancien président tchèque en Afrique.
We see him as a father of the Czech Republic.
Nous le voyons comme le père de la République tchèque moderne. Il est aussi une grande icône politique, un homme qui, malgré le traitement très dur dont il a souffert sous le régime précédent, n'a pas cédé et est resté sur ses principes. Il a attendu pour restaurer les valeurs nationales, les valeurs humaines. Il est aussi respecté comme intellectuel et auteur très prolifique. Il est donc bien connu en Afrique.
Intellectual, very prolific writer. So he is well known in Africa.
Invité à s'exprimer sur le thème principal de ce Forum 2000, l'état de droit et la démocratie au XXIe siècle, nous avons demandé à John Kufuor si ces concepts faisaient encore débat selon les origines culturelles et les orientations politiques des participants.
Basically, I believe democracy is democracy, and I believe all the participants appreciated that.
En substance, je crois que la démocratie est la démocratie. Et je crois que tous les participants ont apprécié le fait que les principales différences sont les divers niveaux de développement selon les zones géographiques. L'intervenant américain a parlé comme quelqu'un pour qui la démocratie est quelque chose qui fonctionne depuis longtemps et a donc de nombreux défauts ou inconvénients, manipulation de la constitution, manipulation de l'appareil judiciaire, etc.
The manipulation of constitution, manipulation of judiciary, and so forth and so on.
Quant à moi, j'ai dit que d'une perspective africaine, nous avons besoin que les constitutions soient des pierres angulaires pour le respect des droits de l'homme. L'Afrique a tellement de ressources naturelles, mais celles-ci ne sont pas assez développées par manque de savoir-faire. L'Europe a le savoir-faire mais manque de ressources naturelles. Si une coopération véritable sur une base du gagnant-gagnant, même si nous nous transformons comme un village global, l'humanité sera plus heureuse. Je crois que le XXIe siècle devrait devenir le siècle de l'humanité, quelles que soient les ethnies, quelles que soient les religions ou les sexes. C'est l'individu humain qui gagne de l'ascendance dans le monde entier. Et c'est pourquoi nous avons en Afrique du Nord actuellement les printemps arabes, tout comme au Moyen-Orient. Et c'est en train de se passer partout, parce que les êtres humains, individuellement, insistent pour que leur liberté soit respectée.
That their freedoms are respected.
Les révolutions arabes et l'ensemble des événements géopolitiques qui agitent le monde, et notamment le Moyen-Orient ces derniers mois, sont logiquement au cœur des débats de ces trois jours de conférences. Parmi les invités, le philosophe français André Glucksmann, qui est un habitué du Forum 2000. Il est aussi assez fin connaisseur de l'histoire de l'Europe centrale, ce qui lui permet de replacer les bouleversements récents dans une perspective plus large. André Glucksmann est aussi connu pour ses positions dites interventionnistes. On l'écoute.
Vous savez, la libération de l'Europe de l'Est, elle a duré 50 ans. La libération qui commence aujourd'hui, l'émancipation des pays arabes comme la Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Syrie, je l'espère, et déjà l'Iran parce qu'ils ont manifesté, va durer aussi un demi-siècle. Donc c'est pas du jour au lendemain. L'intervention en Libye a interdit un massacre. Donc ça a un effet positif parce qu'il y a eu 200 000 massacrés de moins. La non-intervention, même diplomatique, pas nécessairement militaire, auprès de la Russie, pendant les 15 ans du massacre des Tchétchènes, qui ont été massacrés à 200 000, a un effet évidemment négatif. Écoutez, la révolution des dissidents des droits de l'homme en Europe est allée d'échec en échec. Échec des maçons de la Stalinallee en 1953 à Berlin, échec à Budapest, échec en Pologne, échec à Prague, etc., etc. Et finalement, le mur est tombé.
Alors André Glucksmann, philosophe, fait aussi part de son admiration pour la philosophie tchèque.
Vous avez un philosophe remarquable en Tchéquie, en République tchèque, mais il est mort. Mais il est remarquable pour penser le XXe siècle. Et c'est Jan Patočka. Lisez-le comme vous devriez lire Havel, comme vous devriez lire Solzhenitsyn, comme vous devriez lire Orwell et beaucoup d'autres.
André Glucksmann participe à la discussion « La loi et l'individu sur les droits de l'homme et les droits des citoyens » aux côtés de la sociologue indienne Surendra Munshi, de l'américaine Ariane Nayer, présidente de la fondation Open Society, de l'activiste biélorusse Tatiana Revyaka ou encore de Vadim Kluvgant, l'avocat de l'oligarque russe Mikhail Khodorkovsky. C'est pour donner une idée de l'hétérogénéité des intervenants. Et puis vous savez aussi que vous pouvez visionner la plupart des conférences du Forum 2000 en direct sur le www.forum2000.cz.
Voilà, et c'est déjà la fin du bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci aussi de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague. Ahoy !